Chapitre 4. C'était cette même route, suivie avec tant d'anxiété par les fugitifs, que je parcourais à 65 ans de distance, cherchant, comme un chasseur penché sur une piste, les traces qu'ils avaient pu laisser derrière eux. J'étais, à cet effet, parti de Châlons dans une petite voiture que j'avais louée à un entrepreneur de messagerie, moyennant 10 francs par jour. En nourrissant, en outre, le conducteur et le cheval, je la pouvais garder tout le temps qui me conviendrait. Comme la première trace recueillie par l'histoire est à Pont-de-Sommevelle, je m'attendais à ce que rien, jusqu'à Pont-de-Sommevelle, ne viendrait attirer mon attention. Tout à coup, je vis s'élever, au milieu de ces grandes et tristes plaines de la Champagne, une magnifique fleur de pierre taillée à jour comme un ivoire de Dieppe. C'était la petite église de Notre-Dame de l'Épine. Comment cette merveilleuse végétation avait-elle pris racine dans cette craie infertile qui donne à si grand-peine sa maigre moisson? C'était un miracle. Il ne fallait pas moins qu'un miracle, en effet, pour tirer de terre ce bijou de la Renaissance. Je ne sais plus quel évêque de Bayeux, apprenant que le clocher d'Harfleur avait été bâti par les Anglais, répondit « Cela ne m'étonne plus, je savais bien qu'ils étaient trop bêtes, ici, pour bâtir un pareil clocher. » Je ne dis pas cela des Champenois. J'ai pour les Champenois, au contraire, une vénération toute particulière, où, si l'on l'aime mieux, je les trouve bêtes à la manière de La Fontaine, qui était Champenois. Voulez-vous d'autres Champenois? Je vais vous en donner. Le premier poète de la France, chronologiquement parlant, était Champenois. Vous devinez que je veux parler de Thibaut, comte de Champagne, n'est-ce pas? Du poète presque roi qui n'eut pas mieux demandé, comme dit Hugo, que d'être le père de Saint-Louis. Amyot est champenois. C'est un autre bonhomme du genre de La Fontaine. Si bonhomme qu'il a répandu sa bonhomie sur Plutarque. De sorte que ceux qui n'ont lu Plutarque que dans Amyot disent « le bonhomme Plutarque ». Plutarque, un bonhomme. C'est vrai qu'il était né dans la Champagne de la Grèce, en Béotie. Robert de Sorbon, le fondateur de la Sorbonne, est champenois. Charlier de Gerson, le chancelier de l'Université de Paris, qui fit, à coup sûr, les consolations de la théologie et, selon toute probabilité, l'imitation de Jésus-Christ. Il était champenois, ce Deville-Gagnon qui combattit les Turcs avec l'épée, Calvin avec la plume, l'infidèle et l'hérétique. Colbert était champenois. Bouchardon et Girardon, champenois. Lantara et Valentin, champenois. Flodoard et Mabillon, champenois. Henri de Lorraine et Paul de Gondy, champenois. Martin IV et Urbain IV, champenois. Un comte poète, deux théologiens de génie, un commandeur, un ministre, un philosophe, deux peintres, deux sculpteurs, deux historiens, deux cardinaux, deux papes, un général, un maréchal de France. Attendez, nous en oublions bien encore quelques-uns de ces bons moutons de Champagne. Nous oublions Philippe Auguste, le vainqueur de Bouvines, le rival de Richard Cœur de Lion. Nous oublions Danton, que dites-vous de celui-là? Nous oublions Faber, une des plus pures réputations du siècle de Louis XVI. Adrienne Lecouvreur, un des génies dramatiques de la France. Sans compter que Mirabeau faillit naître champenois. Il n'eût plus manqué que celui-là. Revenons à la charmante église de Notre-Dame de l'Épine. Nous avons dit qu'il ne fallait pas moins qu'un miracle pour tirer de la terre ce bijou de la Renaissance. Voilà le miracle. Un soir, des bergers revenaient de paître leurs troupeaux. Ils voient une grande lueur dans un buisson. Ils s'approchent et regardent. Au centre était une Notre-Dame tenant son enfant dans ses bras. Ils ne doutèrent point que l'image sainte ne fût tombée du ciel. Ils l'adorèrent respectueusement, puis s'en allèrent prévenir l'évêque de Châlons de ce qu'ils avaient vu. L'évêque de Châlons vint avec tout son clergé. La sainte sculpture jetait une si grande lumière qu'on eût dit le buisson ardent. Le buisson était à la place où est aujourd'hui l'église. Voilà pourquoi on appelle cette merveille du XVe siècle Notre-Dame de l'Épine. Il y a 17 ans juste qu'un de mes amis, un poète, faisait le voyage que je fais. Comme moi, il s'arrêta étonné à la vue de la splendide aiguille. Comme moi, il descendit de voiture et il écrivit sur Notre-Dame de l'Épine ce que vous allez lire. À 2 lieues de Châlons, sur la route de Sainte-Menoux, dans un endroit où il n'y a que des plaines, des chaumes à perte de vue et les arbres poudreux de la route, une chose magnifique vous apparaît tout à coup. C'est l'abbaye de Notre-Dame de l'Épine. Il y a là une vraie flèche du XVe siècle, ouvrée comme une dentelle et admirable, quoique accostée d'un télégraphe, qu'elle regarde, il est vrai, fort dédaigneusement, en grande dame qu'elle est. C'est une surprise étrange que de voir s'épanouir superbement, dans ces champs qui nourrissent à peine quelques coquelicots étiolés, cette splendide fleur de l'architecture gothique. J'ai passé 2 heures dans cette église. J'ai rôdé tout autour par un vent terrible qui faisait distinctement vaciller les clochetons. Je tenais mon chapeau à 2 mains et j'admirais avec des tourbillons de poussière dans les yeux. De temps en temps, une pierre se détachait de la flèche et venait tomber dans le cimetière à côté de moi. Il y aurait eu là 1000 détails à dessiner. Les gargouilles sont particulièrement compliquées et curieuses. Elles se composent, en général, de 2 monstres dont l'un porte l'autre sur ses épaules. Celles de l'abside m'ont paru représenter les 7 péchés capitaux. La luxure, jolie paysanne, beaucoup trop retroussée, a dû bien faire rêver les pauvres moines. Il y a tout au plus là 3 ou 4 masures, et l'on aurait peine à s'expliquer cette cathédrale sans ville, sans village, sans hameau pour ainsi dire, si l'on ne trouvait dans une chapelle fermée au loquet un petit puits fort profond qui est un puits miraculeux, du reste fort humble, très simple et tout à fait pareil à un puits de village, comme il s'y est à un puits miraculeux. Le merveilleux édifice a poussé dessus. Ce puits a produit cette église comme un oignon produit une tulipe. De qui sont ces lignes? Oh, vous pouvez bien le deviner, il n'y a guère en France qu'un homme qui écrive ainsi. C'est Victor Hugo. J'ai dit en France? Je me trompe. Hélas, c'est hors de France. J'ai été aux informations sur le puits, je voulais savoir lequel, du puits ou de la Vierge, devait avoir les honneurs du chef-d'œuvre. Un petit livre imprimé sur ce sujet, avec l'autorisation de Monseigneur l'évêque de Châlons, ne m'a laissé aucun doute, c'est la Vierge. En sortant du hameau de Notre-Dame de l'Épine, on trouve un petit pont sous lequel passe un ruisseau. C'est la Velle qui, au bout de 140 kilomètres, va grossir l'Aisne. Avec elle, un beau et frais rideau de verdure que l'on a eu à gauche jusque-là, passe à droite et abrite le village de Courtisolles, c'est-à-dire une ligne de charmantes maisons perdues sous l'ombrage et se mirant dans l'eau pendant l'espace de plus d'une lieue et demie. Ce village, qui forme 3 paroisses, est aussi long que Paris, de la barrière du trône à la barrière de l'étoile. Seulement, il n'a qu'une rue, ou plutôt, il n'a pas de rue. Les Courtisoliens n'ont pas été si bêtes que de s'aligner aux 2 côtés d'une ligne de pavés. Non, ils ont capricieusement bâti leurs maisons de ça, de là, selon la fantaisie de chacun, les unes isolées, les autres en groupe. Il est vrai que la plupart de ces paysans sont suisses. Ils avaient l'habitude du pittoresque, ils n'ont pas voulu la perdre. À part cette ravissante ligne d'arbres qui s'arrête juste à la source de la Velle, on ne voit pas un arbre dans toute cette plaine roussie par le soleil. Je me trompe, à l'horizon, on voit des quadrilatères, des carrés longs, des losanges bleuâtres capricieusement dessinés dans la plaine. Ce sont des plantations nouvelles, des sapinières. Comme en Sologne, où l'on essaie si le sapin ne peut pas vaincre la glaise, dans cette pauvre champagne à demi pouilleuse, on essaie si le sapin ne peut pas vaincre la craie. Je m'arrêtai à Pont-de-Somme-Velle. La poste y est toujours. C'est la même où M. de Choiseul conduisit le pauvre Léonard. À 20 pas de la poste, à la gauche de la route, sont quelques beaux ormes qui, à cette époque, venaient d'être ou allaient être plantés. Ce fut là que la reine, ne voyant pas les hussards à leur poste, s'écria « Nous sommes perdus !» Nous avons dit comment l'escorte avait été forcée de se retirer et comment, au-dessus de Tillois, entre Orbeval et Dammartin-la-Planchette, elle avait pris à gauche un chemin à travers terre, et cela à cause de l'agitation que M. de Goguelat avait remarquée à Sainte-Menoux. Disons maintenant la cause de cette agitation. Le 20 juin, à 11 heures du matin, le détachement de hussards que conduisait M. de Goguelat et que commandait M. Boudet, ce même détachement que nous avons vu tout à l'heure quitter Pont-de-Sommevelle, était entré subitement à Sainte-Menou par la route de Clermont. Les hussards s'arrêtèrent sur la place de l'Hôtel de Ville. Leur apparition causa une certaine surprise. À cette époque, le logement militaire était à la charge des villes et, lorsque s'opérait un passage de troupes, le maire en recevait avis 2 ou 3 jours à l'avance. Or, le maire n'avait reçu aucun avis. La municipalité fit alors demander à M. de Goguelat s'il séjournait dans la ville et comment il se faisait qu'aucun avis n'eût été donné de ce passage. M. de Goguelat avait répondu que sa mission était de se rendre à Pont-de-Sommevelle et d'y attendre l'arrivée d'un trésor qu'il était chargé d'escorter. Quant à son logement et à celui de ses hommes, il ne fallait pas s'en inquiéter. Il logerait dans les auberges et paierait pour tout ce qu'il prendrait. M. de Goguelat prévenait, en outre, qu'un détachement de dragons arriverait le lendemain et attendrait ce même trésor à Châlons, comme lui allait l'attendre à Pont-de-Sommevelle. On pourrait loger ce détachement, qui ne séjournerait que 24 heures tout au plus, dans le corps de garde situé sur la place de l'Hôtel de Ville. M. de Goguelat, d'un coup d'œil, avait jugé l'avantage de la position. Il avait vu que ce corps de garde était à peine à 100 pas de la poste, située à cette époque rue de la Porte des Bois. Ces réponses, qui, dans d'autres temps, eussent été plus que suffisantes pour calmer tout soupçon, dans ces temps d'agitation et d'inquiétude, ne firent que les redoubler. Toute la nuit, la ville fut en rumeur, et lorsque, le lendemain matin à 7 heures, les hussards la quittèrent, elle présentait un aspect assez inquiétant pour que M. de Goguelat aimât mieux faire un détour plutôt que de traverser la ville une seconde fois. À peine les hussards sortaient-ils par le faubourg Fleurion que les dragons arrivaient par la route de Clermont. Aux questions faites par la municipalité, M. d'Andouin, leur commandant, fit une réponse analogue à celle de M. de Goguelat. Et, comme celui-ci l'avait indiqué, on mit à la disposition du détachement et de ses chefs le corps de garde donnant d'un côté sur la place de l'Hôtel de Ville et de l'autre sur le jardin de l'Arquebuse. Vers midi, le commandant de dragons alla, avec son lieutenant, se promener à pied sur la route de Châlons. Cette route qui, à part la montée de la lune, n'est qu'une longue pente allant de Sainte-Menou à Châlons, laisse le regard s'étendre à près de 2 lieues sur la ligne que trace un long ruban crayeux entre 2 rangées d'arbres verts au milieu des maigres moissons de la Champagne. Rien ne paraissait sur la route. M. d'Andouin et son lieutenant rentrèrent en ville. 2 heures après, ils refirent le même chemin. Pour aller à la caserne, au haut du faubourg Fleurion, il leur fallait traverser toute la ville. Cette fois comme l'autre, ils rentrèrent sans avoir rien vu. Ces allées et venues excitèrent l'attention d'une population déjà en émoi. On s'aperçut que les 2 officiers s'agitaient beaucoup, qu'ils avaient l'air soucieux et inquiets. Aux questions qu'on leur adressa sur ce sujet, ils répondirent qu'ils attendaient un trésor, que ce trésor était en retard et que ce retard les inquiétait. Vers 7 heures du soir arriva un courrier en veste chamois qui se rendit droit à la poste et commanda au maître de poste des chevaux pour 2 voitures. Ce maître de poste était Jean-Baptiste Drouet. M. Thiers a dit à tort, et j'ai répété d'après lui, que Jean-Baptiste Drouet était le fils du maître de poste. Jean-Baptiste Drouet était non pas le fils du maître de poste, mais le maître de poste lui-même. Le père était mort depuis longtemps. M. d'Andouin s'approcha de M. de Valory. « Monsieur, lui dit-il à voix basse, vous précédez la voiture du roi, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, répondit le courrier, et permettez-moi de vous dire que je suis tout étonné de vous voir, vous et vos hommes, en bonnet de police. » Nous ne savions pas l'heure précise du passage. D'ailleurs, notre présence inquiète. Des démonstrations très menaçantes se font autour de nous et on essaie de débaucher mes hommes. « Silence !» dit M. de Valory, « on nous écoute. Rejoignez vos hommes, monsieur, et tâchez de les maintenir dans le devoir. » Messieurs de Valory et d'Andouin se séparèrent. En ce moment même, des coups de fouet retentissaient et les 2 voitures traversaient la place de l'Hôtel de Ville. Elles s'arrêtèrent en face de la poste. « Vous reconnaîtrez facilement la maison. Elle est située, comme nous l'avons dit, rue de la Porte des Bois. Elle était à cette époque bâtie depuis 3 ans seulement, ainsi que le prouve ce millésime en barre de fer tordue incrusté sur sa façade, 1788. Au-dessus de la porte étaient gravés ces mots « Poste royale ». Le mot « poste » subsiste seul. Le mot « royal » a été gratté depuis. À peine la voiture était-elle arrivée que la population se pressait alentour. Un spectateur demande à M. de Malden, qui venait de descendre du siège, « Quels sont ces voyageurs qui mènent un si grand train ?»« Madame la baronne de Korff, » répond M. de Malden. « Encore des émigrés qui emportent l'argent de la France !» murmura en grondant le spectateur. « Non, car cette dame est russe et par conséquent étrangère. » Pendant ce temps, M. d'Andouin, son bonnet de police à la main, s'était approché de la portière, devant laquelle il se tint respectueusement. « Monsieur le commandant, lui dit alors le roi, comment se fait-il que je n'ai trouvé personne à Pont-de-Sommevel ? Je me demandais à moi-même, sire, répond M. d'Andouin, comment il se faisait que vous arrivassiez sans escorte ? Un commandant de dragons parlant avec un pareil respect à une espèce de valet de chambre placé sur le devant d'une voiture redouble l'étonnement et commence à le changer en soupçon. Le roi d'ailleurs ne prenait aucune précaution pour se cacher. « Monsieur Mathieu, ancien notaire, vieillard de 84 ans, qui me donnait à Sainte-Menou des renseignements sur ces choses qu'il a vues, renseignements aussi précis que si cela se fût passé la veille, me disait que, placé sur le seuil de sa maison, situé dans le plan coupé de la place de l'Hôtel de Ville à la rue de la Porte des Bois, avec ses parents et le maître de la poste aux lettres, le maître de la poste aux lettres, ne pas confondre avec celui de la poste aux chevaux. Il s'était écrié sans hésitation « Tiens, le roi !» Seulement, il s'était bien gardé de faire part à personne de cette reconnaissance. Le roi se montrait donc imprudemment en causant avec M. d'Andouin. Ce fut alors que Drouet crut le reconnaître. Drouet, patriote, ex-dragon de la reine, ex-député à la Fédération, avait eu occasion de voir le roi. Il crut le reconnaître et s'approcha de la voiture. En ce moment, un des courriers cherchait le maître de poste pour payer le relais. Drouet se présenta. Il reçut le paiement de la poste en assignat. Parmi les assignats, il y en avait un de 50 francs, timbré du portrait du roi. Drouet prend l'assignat, compare le portrait à l'original et demeure convaincu que l'intendant de Madame de Korff est bien le roi en personne. Un officier municipal nommé Farcy se trouvait là. Drouet le touche du coude. « Reconnais-tu ? » lui dit-il. « Oh ! » répond celui-ci, « le roi ! Préviens le conseil municipal !» Farcy court à l'Hôtel de Ville, qui n'est qu'à 100 pas, et fait son rapport. Le rapport n'était point achevé que Drouet arrive. Les voitures sont parties, mais à leur départ, un fait étrange s'est passé. Derrière les voitures, un sous-officier de dragons, qu'on a vu parler au roi malgré son grade inférieur, s'élance en tirant un coup de pistolet en l'air. Pourquoi ce coup de pistolet ? Pour un signal, sans doute, mais la population l'a pris pour une hostilité. À ce coup de pistolet, des cris se sont élevés. Un homme qui battait dans une grange située à gauche de la route, un peu au-dessus du petit pont jeté sur l'Aisne, sort de la grange et essaie de barrer le chemin au sous-officier avec son fléau. Le sous-officier met le sabre à la main, écarte le fléau et passe. Toute la population est en rumeur. Drouet, qui fait le rapport avec un de ses amis nommé Guillaume, est très exalté. Le conseil municipal décide, à l'unanimité, qu'il faut courir après les voitures royales et les arrêter. La municipalité propose cette mission à Drouet qui accepte. Plusieurs jeunes gens offrent de l'accompagner. Mais il ne reste à la poste, avec son cheval à lui, qu'un bidet de poste. Ce bidet sera pour Guillaume, son ami. Deux autres citoyens s'entêtent à ne pas les quitter, prennent des mulets et partent avec eux. Les envoyés s'éloignent au milieu des cris d'encouragement de toute la ville. Une heure après, les deux citoyens montés sur les mulets reviennent. Ils n'ont pas pu suivre. Ici, je dois insister sur quelques détails nouveaux et importants que l'on ne trouve que dans les historiens de la localité, chez M. Buirette, témoin oculaire, Histoire de Sainte-Menou et chez M. Gustave Neveu le maire, arrestation de Louis XVI. Ces détails importants, c'est le départ de ce sous-officier de dragon qui, accoudé à la portière de la voiture, a parlé presque familièrement au roi. M. Mathieu me disait « Je le vois encore comme je vous vois » et qui part en tirant un coup de pistolet. Ces détails importants, c'est l'ordre donné par la municipalité à Drouet de poursuivre et d'arrêter le roi. Ainsi, Drouet n'est plus un fanatique isolé, obéissant à une inspiration régicide. Drouet est un citoyen revêtu d'un caractère sacré par les magistrats de son pays. J'ai voulu vérifier le fait de mes yeux. Je me suis fait représenter le registre des délibérations du conseil municipal de Sainte-Menou et j'y ai copié une lettre des administrateurs du district de Sainte-Menou au président de l'Assemblée nationale en date du 20 juin 1791. J'y lis textuellement cette phrase. « Nous avions déjà chargé M. Drouet, maître de poste, et un autre de nos habitants, de courir après les voitures et de les faire arrêter s'ils pouvaient les joindre. » Attendez, nous ne nous sommes point bornés là. L'esprit de parti s'est emparé des événements et a non seulement dénaturé ces événements, mais encore obscurci l'atmosphère dans laquelle ils s'accomplissaient. L'opinion était-elle favorable ou hostile au départ du roi ? Favorable, vous répondront l'abbé Georgel et M. de la Cretelle. Hostile, vous répondront Louis Blanc et Michelet. M. Thiers ne répondra rien de positif. Qu'on lise les lignes suivantes, extraites par nous d'un mémoire tendant à éclairer l'Assemblée nationale dans la distribution des témoignages de sa munificence envers la ville de Sainte-Menou. Combien de moyens ces deux illustres citoyens, Drouet et Guillaume, n'ont-ils pas dû tenter et employer, soit pour abréger leur course en tenant des routes de traverse que l'obscurité de la nuit rendait incertaines et périlleuses, soit pour se dérober à des parties de hussards et de dragons répandues çà et là sur les traces des voitures, soit enfin pour réussir dans l'arrestation de ces mêmes voitures en obstruant eux seuls par le renversement d'une charrette chargée de meubles le pont de Varennes par où elles pouvaient s'évader, en réveillant la municipalité, en faisant mettre sur pied la garde nationale et, généralement, en se comportant en ange tutélaire, encore plus qu'en héros citoyen. Et n'allez pas croire que ces magistrats qui appellent Drouet et Guillaume des héros citoyens, des anges tutélaires, soient des républicains fanatiques. Point, ce sont des royalistes constitutionnels, et la preuve, la voici. Le 22 juillet suivant, le bruit se répand à Sainte-Menou que l'Assemblée veut proclamer la déchéance du roi et établir un conseil de régence ou mettre la France en république. Aussitôt, le conseil municipal de Sainte-Menou, le même qui a fait arrêter le roi par Drouet et Guillaume, se réunit et rédige cette adresse pour l'Assemblée. Nous rejetons avec indignation toute doctrine tendant à faire de la France une république et nous jurons une inviolable adhésion à tous les décrets émanant de votre sagesse et notamment à ceux des 15 et 16 du courant, protestant d'y conformer notre conduite comme administrateur, comme magistrat, comme juge, comme soldat et comme citoyen. Oui, nous le répétons, ces gens-là étaient des royalistes constitutionnels qui ne poursuivaient et n'arrêtaient le roi avec tant d'enthousiasme que parce que, le roi absent, une république devenait probable. Revenons à notre récit. Le roi partit et Drouet et Guillaume lancés à sa poursuite, M. d'Andouin donna l'ordre à ses dragons de monter à cheval et de suivre les voitures royales. Mais l'ordre était plus facile à donner qu'à exécuter. Le coup de pistolet tiré par le sous-officier avait eu un écho fatal dans les cœurs, ou plutôt dans les imaginations. Les gardes nationaux s'armaient de leurs fusils à deux coups. Un rassemblement considérable se formait, tumultueux et bruyant, devant la poste, c'est-à-dire sur la route même qu'étaient obligés de prendre les dragons pour suivre les voitures royales. Sur ces entrefaites, M. d'Andouin fut invité par le conseil municipal à se rendre sur le champ à l'hôtel de ville. Il s'y rend et est sommé de décliner son nom et d'exhiber ses ordres. « Je me nomme d'Andouin, » répondit-il. « Je suis chevalier de Saint-Louis, capitaine d'une compagnie du 1er régiment de dragons, et voici l'ordre que j'ai reçu. » et il dépose sur le bureau l'ordre suivant. De par le roi, François-Claude Amour de Bouillé, lieutenant général des armées du roi, chevalier de ses ordres et commandant général des armées sur le Rhin, la Meurthe, la Moselle, la Meuse et pays adjacents, frontières du Palatinat et du Luxembourg, il est ordonné à un capitaine du 1er régiment de dragons de partir avec 40 hommes du dit régiment le 19 de Clermont pour se rendre à Sainte-Menou où il attendra le 20 et le 21 un convoi d'argent qui lui sera remis par un détachement du 6e régiment de hussards venant de Pont-de-Sommevel, route de Châlons. Les dragons et les chevaux seront logés de gré à gré dans les auberges. Les frais pour la nourriture des chevaux seront remboursés au commandant du détachement, et il sera donné à chaque dragon 15 sous en outre de sa paie pour lui tenir lieu d'étape. Metz, 14 juin 1791. Bouillé. On fit alors observer à M. d'Andouin que les délais mis par les hussards à revenir avec le trésor qu'ils devaient confier aux dragons donnaient lieu à des inquiétudes et causaient une certaine fermentation dans le peuple. Il était donc indispensable que M. d'Andouin déclarât à l'instant s'il était vrai qu'il fût venu dans le seul dessein d'attendre le trésor. M. d'Andouin répondit sur l'honneur qu'il n'avait pas d'autre mission. En ce moment, les cris de la multitude montèrent jusqu'à la chambre où se tenait le conseil et où l'on interrogeait M. d'Andouin. Ces cris demandaient le désarmement des dragons. « Vous entendez, commandant ?» dit le maire. « Il faut pour tranquilliser les habitants que vos dragons posent les armes. Veuillez donc leur en donner l'ordre. »« Je le leur donnerai, » répondit M. d'Andouin, « si j'en reçois la sommation par écrit. » La sommation fut faite, l'ordre de désarmement donné par M. d'Andouin et les armes des dragons et les harnachements des chevaux furent apportés à l'hôtel de ville. Au moment où M. d'Andouin et M. Lacour, son lieutenant, reparurent à la porte de l'hôtel de ville donnant sur la place, l'exaspération était à son comble. Toutes les voix criaient. « C'est un traître ! Il était instruit de tout et il en a imposé à la municipalité !» On fit conduire les deux officiers à la geôle de la prison. Pendant ce temps, le citoyen Leguet, officier de la garde nationale, établissait sous les arbres qu'ils ont placés à l'angle de la rue des Marais et de la rue de la Porte des Bois, un poste de garde nationaux choisi parmi les meilleurs tireurs, avec ordre de faire feu sur tout homme sortant de la ville ou y entrant au galop, et qu'il ne répondrait pas immédiatement au qui-vive des sentinelles. Quelques minutes après ces ordres donnés, le bruit se répandit que les hussards de Pont-de-Sommevel avaient tourné la ville et que Drouet et Guillaume couraient le risque de tomber entre leurs mains. M. Leguet demanda alors deux hommes de bonne volonté pour aller avec lui éclairer la route et prendre des nouvelles de Guillaume et de Drouet. Deux gendarmes, Collet et Lapointe, s'offrent et tous trois partent pour cette mission. Derrière eux arrive un exprès à pied. Il est expédié de la Neuville-au-Pont et, tout essoufflé, est introduit dans la salle du conseil municipal. Il est porteur d'une lettre de la municipalité de la Neuville-au-Pont, conçue en ces termes. « Messieurs, il vient de passer ici 60 à 80 hussards qui venaient du côté de la Champagne et qui se font conduire à Varennes. On ne sait ce que c'est que tout cela. On a lieu de craindre et nous vous prions de nous dire quelles précautions il convient de prendre. » En attendant, on va monter la garde. Nous avons l'honneur d'être très sincèrement, messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs. Jobelet, maire. J. H. Dédiogne. 21 juin 1791, à 8h du soir. Le messager fut interrogé. Les hussards s'étaient égarés. C'étaient ceux de messieurs de Goguelat et Boudet. Ils étaient arrivés à la Neuville-au-Pont et y avaient pris un guide pour les conduire, par Florent et la Chalade, à Varennes. Tandis que la municipalité de Sainte-Menou répondait à celle de la Neuville-au-Pont, on entendit 5 ou 6 coups de feu et des cris. Les municipaux s'élancèrent hors de l'hôtel de ville. Il venait d'arriver un accident grave. Nous avons dit que Leguet, après avoir donné l'ordre à quelques bons tireurs embusqués par lui sous les arbres situés à l'angle de la rue des Marais et de la rue de la Porte des Bois, de faire feu sur tout homme passant au galop, était parti avec les gendarmes Collet et Lapointe. Nos trois explorateurs étaient allés jusqu'à la Grange-aux-Bois et ayant rencontré sur le chemin les deux citoyens de Sainte-Menou montés sur leurs lourds chevaux, qui n'avaient pu suivre Drouet et Guillaume et qui revenaient, ils apprirent d'eux qu'aucun accident, du moins jusqu'aux Ilettes, n'était arrivé aux envoyés municipaux. Pressés de rapporter cette bonne nouvelle, Leguet et ses compagnons étaient revenus au grand galop et sans répondre au qui-vive de l'embuscade. Or, celle-ci avait fait feu et les trois cavaliers étaient tombés, l'un tué, l'autre blessé grièvement. Le troisième, Leguet, avait reçu quelques grains de plomb dans le bras et dans la main. Cet accident fit une impression profonde. Beaucoup de citoyens voulurent alors entrer chez eux. Mais le peuple barricada les rues. Tout ce qui était sur la place de l'hôtel de ville dut y rester jusqu'au lendemain matin. Seulement, on illumina les fenêtres afin de rendre impossible tout accident pareil à celui qui venait d'arriver. Vers minuit, un piquet de gardes nationaux amène à la municipalité un exprès dépêché de Châlons et porteur de l'ordre suivant. De la part de l'Assemblée nationale, il est ordonné à tout bon citoyen de faire arrêter une berline à 6 chevaux dans laquelle on soupçonne être le roi, la reine, Madame Élisabeth, le dauphin et Madame Royale. Je suis envoyé à sa poursuite par la ville de Paris. Mais comme je suis trop fatigué pour me flatter de pouvoir l'atteindre, j'ai dépêché le porteur du présent à cet effet, lui recommandant de requérir la force publique pour lui faciliter l'arrestation de toutes les voitures qui pourraient contenir des ennemis de la nation. Bayon, commandant du bataillon de Saint-Germain, pour M. de Lafayette. Au bas de cette lettre étaient écrits ces mots « Je certifie avoir vu les pouvoirs de M. Bayon et me suis porté fort d'accompagner la personne que nous amenons. Tu venis mettre en pharmacie à Châlons. » Puis, au-dessous, on lisait encore « Le présent avis sera transmis de courrier en courrier jusqu'à Sainte-Menou, où il sera pris des informations sur 2 berlines qui ont dû y arriver sur les 6 ou 7 heures du soir. Le maire, Chauré. Rose, procureur général. » Le maire de Sainte-Menou écrivit, toujours à la suite, ce renseignement. « Les 2 berlines sont passées à 7h30. Il y avait dans la première voiture 2 femmes. Dans la seconde, 3 femmes, 1 homme et 2 enfants. » Un courrier suivait immédiatement la berline de derrière, attelée de 6 chevaux. À l'hôtel de ville de Sainte-Menou, à minuit, en présence de la garde nationale. Dupin, maire. Il n'y avait plus de doute, c'était bien le roi et la famille royale qui avaient passé et à la poursuite desquels s'étaient mis Drouet et Guillaume. Vers 1 heure du matin, arrivèrent messieurs Bayon et Romeuf. Bayon, comme nous l'avons dit, commandant du bataillon de Saint-Germain, Romeuf, aide de camp de Lafayette. On ne put leur donner aucune nouvelle du roi. Ils s'étaient reposés à Châlons. Ils ne s'arrêtèrent à Sainte-Menou que le temps de s'assurer que le roi et la famille royale étaient passés, et dès qu'ils en eurent acquis la certitude, ils s'élancèrent sur leurs traces.